J'en passe maintenant à la présentation de Monsieur Jack Goody, qui est une longue présentation parce que vous verrez le parcours qui est un parcours impressionnant. Donc Jack Goody est un anthropologue, il est anglais, il est né en 1919, il est docteur en anthropologie, il a eu son doctorat en 1954 et il est professeur honoraire à l'université de Cambridge. Alors pour ce qui est de son parcours, je ne pourrais pas vous le retracer intégralement tellement il est important, donc j'espère en retenir un certain nombre de dates qui sont importantes. Donc en 1961, il a été enseignant au St. John's College à Cambridge et professeur invité à l'Institut d'études africaines et au département de sociologie de l'Université du Ghana. Entre 1966 et 1973, il a été directeur du Centre des études africaines à Cambridge. Entre 1973 et 1984, il a été professeur d'anthropologie sociale à Cambridge. Entre 1973 et 1986, directeur d'études associées à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Entre 1979 et 1980, chercheur au Center for Advanced Studies in the Behavioral Science à Palo Alto en Californie. En 1986, chercheur invité au Musée national des arts et traditions populaires à Paris et professeur invité au National Museum of Ethnology à Osaka au Japon. Il a également donné de nombreuses conférences et de nombreux cours dans la plupart des universités au niveau international. J'en cite quelques-unes au hasard parce que vraiment c'est au hasard. En 1987, l'Université de Californie. Entre 89 et 91, le Smithsonian Institute à Washington, le Wissenschaft College zu Berlin entre 92 et 93, l'Université de Singapour en 93, il a donné des conférences au Centre Georges Pompidou en 95, à l'European University Institute à Florence entre 96 et 97, à la Deutsche Bank en 99, à l'East European University de Budapest au British Museum en 2001. Et là, j'en citais seulement quelques-unes. Pour ses spécialités, Jack Goody a commencé à travailler sur les sociétés dans le nord du Ghana, où il s'est rendu plusieurs fois. Il a également travaillé sur la Thaïlande, sur l'Asie, l'Inde, Hong Kong, la Chine du Sud. Il a beaucoup travaillé sur l'écriture et son impact sur les sociétés, sur la cuisine, sur les fleurs ou la famille et les structures familiales. Il a développé une anthropologie comparative en analysant les rapports entre les sociétés et les cultures. Pour ce qui est des publications, il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont certains ont été traduits en français. J'en citerai là également certains, quelques-uns. En 1979, est paru La raison graphique aux éditions de Minuit. En 1994, entre l'oralité et l'écriture aux presses universitaires de France. En 1994, La culture des fleurs aux éditions du Seuil. En 1999, L'Orient en Occident aux éditions du Seuil. En 2000, Famille et mariage en Eurasie aux presses universitaires de France. En 2001, La famille en Europe aux éditions du Seuil. Il est membre de l'American Academy of Arts and Sciences et de la British Academy. Il a reçu de nombreux prix. Il est officier de l'Ordre des Palmes Académiques et officier des Arts et Lettres. Voilà, Jack Goody, j'en ai fini avec votre présentation. Je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi pourra suivre un débat avec le public d'une vingtaine de minutes. Je vous remercie.
Merci à tous. La première chose que je voudrais dire en tant qu'ethnologue, anthropologue, est que la question concernant l'esprit a toujours été avec nous, nous les êtres humains. Elle a été formulée comme étant une opposition entre le mental ou le spirituel et le corporel ou le matériel. Le premier, le mental, est parfois compris comme l'âme, souvent lié à la notion de Dieu lui-même. Je voudrais traiter deux aspects apparents de ce discours contemporain. Le premier a rapport à la presque totale universalité de la dichotomie esprit-corps. Des philosophes et des psychologues ont récemment essayé de modifier la dualité, particulièrement dans les discussions au sujet des bases physiques de l'esprit. Mais problème se pose encore à propos des actions automatiques et volontaires et de la présence du conscient. Mais en général, la dichotomie, telle qu'elle a existé depuis toujours, a été mise de côté. Un problème apparenté persiste cependant. Dans quelle mesure les activités mentales humaines, l'esprit, sont-elles organisées par des procédés génétiques sera structurellement fixe, hardwired, comme on dit en anglais, ou bien en termes de tendance innée, propension, et dans quelle mesure sont-elles les produits de la transmission culturelle ou du comportement appris? est devenant une dichotomie encore plus discutable et dans un autre ordre de réflexion. Jusqu'où ce comportement appris caractérise-t-il le comportement humain comparé à celui de l'animal? Dans mon discours, je propose de prendre le mot « esprit » comme l'équivalent du mot anglais « mind ». Bien évidemment, ce ne sera pas toujours le cas. La phrase « esprit humain » se réfère aux caractéristiques générales de l'esprit, celles qui ne peuvent pas être réduites à des cultures particulières, mais qui sont générales à l'humanité, telle la manière de penser en séquence, l'usage de langage et beaucoup d'autres capacités alliées, ce que j'appelle les technologies de l'intellect. L'esprit est aussi relié aux mentalités qui ne se réfèrent pas tant aux facultés générales humaines, mais à des mentalités spécifiques, telles que la mentalité primitive dans les travaux du philosophe français Lévi-Boulle. Ici, dans l'histoire de mentalité, nous ne nous occupons pas tant d'éléments communs, mais d'éléments qui différencient les époques et les cultures dans le temps. Je pense, par exemple, à Robert Danton, qui, dans son livre « Le grand massacre du chat », tente de discuter une certaine mentalité existant dans la France du XVIIIe siècle, faisant une analyse approfondie d'une série limitée de textes. Cette opposition entre les traits généraux de la culture humaine, que ce soit l'esprit ou pas, et les traits particuliers d'une culture individuelle, a été le sujet de disputes constantes depuis le début des sciences sociales, spécialement en anthropologie. Certains ont été entraînés à nier la notion générale de l'esprit humain, réduisant tout à un contexte culturel spécifique. Ceci est associé avec la notion d'une culture dans laquelle le monde humain est divisé en espèces, comme par exemple dans le monde animal, bien sûr transmise par des moyens sociaux, aussi bien que génétiques. D'autres parlent de la culture comme une capacité humaine unique qui peut avoir des résultats semblables dans les cultures différentes et spécifiques. Comme dans l'opposition du général et du particulier, les deux y sont présents. Et dans cet entretien, je voudrais me concentrer sur le dernier. On peut beaucoup discuter sur ce qui est général du point de vue de l'esprit, mais on ne peut pas tout à fait rejeter la notion des traits communs, spécialement quand il y a dans le monde des situations communes qui se présentent à tout animal utilisant le langage, c'est-à-dire les humains. Je viens d'écouter récemment certains points de cet argument dans mon livre intitulé « Représentation et contradiction ». L'humanité conçoit le monde au travers de certaines dualités linguistiques. Dans ce cas particulier, la dualité de l'esprit et du corps, comme dans le dicton latin « mens sana in corpore sano ». Il y a un esprit à l'intérieur du corps et les deux sont considérés comme opposés et complémentaires. Cette dichotomie représente l'expérience que les humains ont de leur corps physique et de l'appareil avec lequel ils pensent l'esprit. Ils fonctionnent en grande partie mais pas exclusivement à l'aide des mots, par le langage, et ne laisse pas de traces visibles. L'esprit est donc souvent considéré comme l'immatériel, et ainsi la dichotomie est souvent perçue comme représentant le matériel à l'opposé de l'immatériel, voire du spirituel. Cette dimension de l'opposition n'est bien sûr pas toujours correcte, puisque le langage a une contrepartie matérielle, et puisqu'il est transformé par le cerveau de façon invisible à l'œil. Le visible et l'invisible sont intrinsèques à la notion du corps et de l'esprit. La dichotomie entre le corps et l'esprit suit parallèlement celle du corps et de l'âme. Elle est basée sur l'expérience humaine comme je l'ai développé dans une étude des pratiques et des croyances autour de la Manche et les Lodega du nord du Ghana. L'expérience du Lodega, ainsi que celle de tous les autres peuples, est que le corps meurt et qu'il est enterré. Mais les biens du défunt, sa mémoire, ses rapports, continuent à vivre. Et les morts sont officiellement appelés sur la terre comme esprit, comme le soul stuff, substance de l'âme, par les fêtes variées données en leur honneur. Mais on fait, bien sûr, pour conseiller les humains dans leurs activités. Une partie de la personne humaine disparaît, devient poussière, où elle est mangée par les vers, comme disent les dégâts. L'autre partie de la personne humaine continue à vivre pour revenir de temps en temps. C'est le spirituel, la partie invisible, quand nous ne pouvons pas normalement voir nos ancêtres, bien qu'ils aient des sanctuaires, des images, des hôtels à leur nom. La distinction qui les sépare, l'un et l'autre, est très délicatement maintenue. Et ce sont les Européens, les Portugais, qui ont considéré l'objet, l'autel, comme étant le même que le dieu ou l'argent surnaturel, c'est-à-dire comme un fétiche, ce n'était pas les Africains. Ces dichotomies sont liées à une autre opposition très générale, je dirais potentiellement universelle, non seulement entre la chair, le corps et l'esprit ou l'âme, mais entre les composants spirituels et matériels de l'univers, pour ainsi dire, entre le naturel et le surnaturel. Une fois de plus, l'élément de la perception visuelle est important. On ne peut pas voir les dieux, ils ne respirent pas comme nous, les humains. Nous attirons leur attention par des moyens particuliers en faisant les prières, des sacrifices, des rituels. Parfois, cette division entre le monde des choses et le monde de l'esprit est conçue comme ayant une valeur fortement marquée, le monde des choses étant associé avec la chair, le diable et le mal, le domaine de l'esprit avec Dieu et le bien. On considère le spirituel meilleur que le terrestre, on lui donne un statut plus élevé, tout au moins pour ceux qui sont professionnellement impliqués, le clergé, les prêtres, les érudits et par ceux qui acceptent leur autorité. D'habitude, il y a un équilibre ou un échange entre les deux, comme par exemple dans ce qui est devenu la doctrine chrétienne orthodoxe en Christ. Dieu devint chair, sa nature était et humaine et divine. En outre, Dieu le Créateur, Dieu le Père, créa le monde avec le bien et le mal. Comment se fait qu'un Dieu bon puisse avoir créé le mal dans le monde? Ce problème du mal a préoccupé des théologiens comme les laïcs. Il a été intrinsèque à toute la question de la création, telle que nous le montre le mythe du Bagré de l'Odegaard. Une solution possible fut offerte dans les alternatives variées de la chrétienté orthodoxe appelée hérésie, telles les puissantes croyances manichéennes auxquelles saint Augustin souscrit dans sa jeunesse en Afrique du Nord. Le problème est le suivant. Il n'est pas facile d'expliquer l'existence du mal pour ceux qui croient en un Dieu tout-puissant, grand créateur. Dieu a une puissance infinie, pourtant il permet au mal d'exister. Il se tient à l'écart lorsque le mal attaque les hommes qu'ils ont créés à son image. La solution la plus fréquente en Afrique est de considérer Dieu comme un Deus otiosus, comme quelqu'un qui créait le monde, mais qui ensuite s'éloignait de l'humanité. Il a laissé se débrouiller le mieux possible de ses problèmes à travers une communication avec les réflexions variées du Créateur, c'est-à-dire des déités moindres d'une espèce ou d'une autre, c'est-à-dire c'était la solution polythéiste. Les dualistes du Proche-Orient et de l'Europe avaient une autre solution, à la fois simple et plausible. Dieu n'était pas le créateur du monde, c'était le démiurge, le diable ou l'esprit du mal. Ainsi, la réponse dualiste impliquait une séparation totale de l'esprit et la matière, entre le bien et le mal, entre les agents surnaturels qui les avaient créés, entre Dieu et le diable. La matière, les choses de ce monde, plutôt considérées comme les sources du mal, devaient être rejetées afin d'étendre le salut. Une église dualiste ou gnostique fut fondée à Rome par un riche amateur du Proche-Orient nommé Marcion aux environs de 144 de notre ère. Le demiurge était perçu comme étant le Jéhovah de l'Ancien Testament. Le vrai Dieu était Jésus, le Dieu de l'amour et non de la rétribution. Pour les marcionites baptisés, le mariage et les relations sexuelles étaient totalement interdites parce qu'elles perpétuaient la race humaine sur terre, dans la matière plutôt que dans l'esprit. De plus, l'ascéticisme et l'abnégation, le rejet des choses de ce monde, étaient des principes directifs de la vie. Mais un tel rejet était pratiquement impossible pour la majorité, dont le baptême et l'engagement total dans l'Église étaient retardés jusqu'à la fin de la vie, jusqu'au lit de mort. Ces procédés imposaient une division dans l'Église en deux catégories, les baptisés et les croyants qui désiraient être baptisés à la fin de la vie. C'est une pratique courante chez les premiers chrétiens. Ces croyances venaient des difficultés dans la religion chrétienne et furent développées par d'autres sectes. La plus célèbre était celle des manichéens au IVe siècle. Leur nom et leur enseignement venaient de Mani, un persan qui commença à prêcher en 242 et qui fut martyrisé parce qu'il provoquait les prêtres zoroastriens. Ses disciples les plus convaincus évitaient tout contact avec le monde matériel, refusant le travail, les rencontres ou le mariage. Les sectes dualistes étaient nombreuses. En Arménie, une forte communauté dualiste avait existé depuis le 5e siècle. Des colonies s'établissaient en Thrace, et avec elles, les techniques militaires en même temps que les croyances hérétiques. Les croyances hérétiques se développèrent jusqu'au Xe siècle et s'étendirent jusqu'à la Bulgarie voisine. Les Slaves en général résistaient à l'Église orthodoxe de leurs seigneurs grecs et bulgares. Ils étaient plus attirés par des croyances plus rigides, spécialement celle du prêtre Bogomil, qui fonda la première Église dualiste d'Europe représentée dans l'Ouest par les Cathares. Les Bogomils, comme les Cathares, rejetaient l'Ancien Testament et Jéhovah, bien sûr, et attribuaient au diable la création du monde. Ils ne respectaient ni les sacrements ni les jours de fête. Ils ne vénéraient pas la croix, car elle était le symbole de la mort de Christ ainsi qu'un objet matériel. Dans la mesure du possible, ils s'abstenaient de viande et de vin, et de relations sexuelles. Ils étaient résolument contre l'autorité. Il est clair que le rejet du monde matériel, les rapprocher du croyance puritaine verrier et jeter du doute profond sur toute question concernant les images, la représentation visuelle. Les Bogomils répandirent leur enseignement en Macédoine, puis en Serbie, en Bosnie, même en Croatie. On ne sait pas comment leur doctrine vint jusqu'à l'Ouest, peut-être grâce aux marchands de textiles, aux pèlerins ou aux croisés. Les régions où ils apparurent en premier, au XIIe siècle, furent la Fronde, la Champagne, la vallée de la Loire, la vallée du Rhin. c'est-à-dire nord, pas au sud. Déjà dans l'ouest, les hérésies anticléricales semaient l'alarme avec des noms comme Arnold Brescia à Rome et Valdez à Lyon en 1173. Valdez était le fondateur de Valdancion au nord d'Italie et au sud de la France. Le paysan Clément de Champagne paraît être le premier à avoir prêché l'hérésie dualiste dans l'ouest aux environs de 1114. Il condamnait les sacrements. Son enseignement interdisait le mariage, la viande et la procréation comme appartenant au mal. D'importantes congrégations dualistes apparurent dans plusieurs villes de la vallée du Rhin et des Pays-Bas, mais le dualisme du Nord, où les initiés étaient déjà connus sous le nom de cathares, en grec les purs, alarma l'Église qui réagit contre ce qu'ils appellent la peste manichéenne avec une politique de forte répression. Les chrétiens et la communauté se sentaient menacés et beaucoup de dualistes s'enfuirent en Lombardie et en Languedoc où ils trouvèrent une société plus tolérante et plus riche, une société qui avait une longue tradition de secte hérétique et qui n'était pas organisée centralement. Là, la croyance put s'épanouir avec les résultats que nous connaissons et qui mena à la répression dévastatrice de la croissance albigeoise. L'occurrence des cathares n'est pas unique dans sa séparation radicale de l'esprit et de la chair. Cette occurrence n'était pas non plus confinée au Languedoc. Sa contrepartie, comme j'avais dit, existait dans le Nord. Il avait des progéniteurs parmi les premiers Bogomils de Bulgarie et bien avant ça, les premières traditions chrétiennes furent marquées par plusieurs sectes gnostiques, dont les manichéens et les masonites furent les plus importants. Il faut souligner qu'une dichotomie aussi radicale n'est pas seulement un trait appartenant à la chrétienté. L'ancienne religion zoroastrienne de Perse présente le monde comme un champ de bataille entre le bien et le mal. L'esprit à la matière. Le rejet de la matière en faveur de l'esprit était commun dans le stoïcisme et le néoplatonisme, les grandes doctrines païennes de la fin de l'Antiquité. Et ça se trouve aussi, bien sûr, dans le bouddhisme. Nous trouvons donc des formes dualistes extrêmes de la dichotomie entre esprit et matière, entre le bien et le mal, dans toutes les parties du monde. Les formes extrêmes du dualisme étaient sans aucun doute les produits de la formalisation de la doctrine qui suivit l'utilisation du langage visible, c'est-à-dire de l'écriture. Mais il existe une dichotomie plus étendue, moins radicale, entre l'esprit et le corps, dont j'ai parlé plus tôt, et qui caractérise non seulement la chrétienté et les grandes religions du monde, mais qui est aussi une qualité intrinsèque des cultures orales. Elle est inhérente à leur concept religieux, car c'est une formalisation créée par le langage de l'expérience universelle de la mort et du rêve, comme essayé d'expliquer il y a longtemps l'anthropologue anglais E.B. Tylor. Exprimé par le langage, ce genre d'expérience donne naissance aux dichotomies concernant l'esprit ou l'âme et le corps. Il y a eu en anthropologie deux concepts dominants de l'esprit. Vers la fin du 19e siècle, anthropologues et sociologues s'intéressèrent pour la plupart à les différences possibles existant entre les mentalités des primates et les soi-disant mentalités primitives à l'opposé de nôtres, marquées par le siècle de la Lumière, ou par l'idéologie chrétienne, ou par l'expérience grecque, selon le point de vue particulier choisi. Cette entrée dans les différentes mentalités a peu disparu, mis à part l'école de recherche historique sur les mentalités qui souligne les nuances plus raffinées. Au début du XXe siècle, certains, comme le sociologue français Durkheim, proposaient une origine sociale de l'esprit, des catégories de la compréhension, de l'intelligence, qui n'étaient pas données dans un sens absolu, comme le philosophe allemand Kant le soutenait, mais provenant de la société et du social. Cependant, au même temps, le psychologue suisse, Piaget, mettait l'accent sur les proclivités innées pour l'essor du développement humain, comme dans l'acquisition des concepts. Cette opposition entre le culturel et le biologique prit de nombreuses formes. Lévi-Strauss et d'autres structuralistes ont tendance à voir ces structures comme émergeant de l'esprit humain, de l'architecture des mentalités, d'une façon pas très explicite. Les culturalistes comme Margaret Mead ont tendance à rejeter de telles assumptions, souvent pour des raisons politiques, ou à en réduire leur potentiel. La dernière phase de cette discussion est offerte par les scientifiques cognitifs qui prétendent baser leurs prétentions biologisantes sur des évidences expérimentales émanant de travaux psychologiques. Un exposé clair et compréhensif est présenté par l'anthropologue français Pascal Boyer dans son livre Explaining Religion, qui a été écrit en anglais, que je voudrais examiner avec un autre livre d'une approche un peu différente par l'ethnologiste anglais Robert Hind, intitulé « Why Gods Persist »,« Pourquoi les dieux persistent ». Dans ce débat, voyez pourtant que, et je cite, « l'explication des croyances et des comportements religieux qui doivent inclure la division entre le corps et l'esprit, se trouve dans la manière dont tous les esprits humains fonctionnent. » Et il insiste que ces propriétés de l'esprit sont universelles. Il ne voit pas l'esprit comme une ardoise vide, mais comme étant préparé, programmé par la sélection naturelle qui nous donne des dispositions mentales pour certains concepts plutôt que pour des autres. Je suis prêt à accepter cette approche universelle et j'acquiesce sans doute à la notion de disposition mentale profonde où on peut démonter leur existence. Mais ça pose beaucoup de problèmes. Et je mettais toujours plus d'emphase sur l'expérience des humains utilisant le langage face au monde. Comme voyait le note justement, la venue de l'écriture transforma dramatiquement le scénario religieux, entraînant un divorce avec les temps plates, les formes communes, surnaturelles et les systèmes de référence. Si un changement du monde, de la communication, peut avoir cet effet sans temps plates, sans formes, pourquoi pas l'introduction du langage lui-même? J'entends par cela un langage spécifique, pas simplement la faculté d'acquérir ou de développer un langage qui est sans doute influencé par les gènes. Ceci étant, cela pourrait aussi facilement conduire au développement conceptuel du genre impliqué dans la dichotomie corps-âme ou corps-esprit. La tendance dominante de ces sciences cognitives est de voir l'esprit au point de vue des programmes de sous-sol construits dans la psyché humaine par les forces évolutionnaires naturelles. Ces programmes sont décrits avec la terminologie des programmes de logiciels, de formes templates, de catégories ontologiques, ou d'une façon moins mécanique, en termes de tendances pour certaines formes de comportement. Il est évident qu'un comportement humain doit être cohérent avec la structure de l'esprit et avec ses traits biologiques. Mais la structure du procédé mental ne dépend pas uniquement des derniers, comme l'ont assumé des générations d'anthropologues dans le concept de la transmission culturelle, de comportement appris. C'est une question de juger l'importance des différents éléments. Il est vrai que les anthropologues ont peut-être donné trop peu d'attention aux aspects biologiques et évolutionnaires de l'esprit. C'est sans doute parce que les procédés mentaux montrent quelque chose, montrent clairement quelque chose d'autre d'importance. Prenons la connaissance du calcul que nous utilisons tous les jours dans notre société de l'Ouest. Je me réfère à la table de multiplication. C'est un moyen qui existe dans la société à l'écriture et qui dépend de façon de présenter graphiquement les chiffres écrits en rangées et en colonnes. Les enfants les mémorisent ensuite, souvent avec des difficultés considérables, pour s'en servir et de faire des calculs nécessaires. J'ai appelé cet élément une technologie de l'intellect, mais c'est une faculté cognitive qui est clairement acquise et qui n'existe pas dans les cultures purement orales, à moins qu'elle n'ait été empruntée à une culture de l'écriture. Ainsi, nous trouvons un dualisme étendu, sinon universel, du corps et de l'esprit, qui conclut une expression particulière, théologique, dans ce dualisme extrême, tel que celui des cathares. J'ai expliqué ce dualisme dans les termes des problèmes appliqués aux humains, utilisant le langage, face aux problèmes universels de la mort. Mais il y a d'autres façons de le voir. Prenons le point de vue de la science cognitive. Boyer adopte une autre position. Il ne le voit pas comme étant le résultat de conceptions abstraites du corps et de l'esprit, mais venant, il dit, de nos intuitions ainsi que de la façon particulière qui dirige nos systèmes d'inférence. Les intuitions appartiennent aux règles inconscientes qui opèrent dans le sous-sol de nos esprits. Elles sont reliées à des recettes mentales. Un système d'inférence est un mécanisme plus spécifiquement explicatif, où chacun est adapté à des événements particuliers et qui suggère automatiquement des explications de ces événements. Ce qui crée le problème n'est pas que la personne persiste, mais que les intuitions contradictoires apportées par deux systèmes d'inférence, l'un système traitant de l'animé, l'autre l'identification de ce qui appelle la personne individue, endossant le person file system en anglais, un système d'identification de la personne individue, qu'on ne peut pas simplement arrêter, il dit. Bien que le mécanisme soit différent, ce dernier nous dit presque la même chose. Boyer propose l'existence d'un système inné de dossiers de personnes, incapable de s'arrêter. Pourquoi il ne nous dit. Bien sûr, le système se compose de données apprises. Mais je crois que la contradiction vient du fait que la mort, l'inanimé, est la continuité, du moins temporaire, du personnel social, du rang social, des rôles, de la propriété, des relations et des liens émotionnels de la personne défunte en relation avec la communauté permanente. Voyez voir comme le problème comme étant la disjonction entre les intuitions incompatibles et la déduction des différents systèmes. Moi, je le place au niveau plus accessible au fonctionnement mental pour savoir comment la situation est conceptualisée par le langage. De nombreux psychologues et d'autres scientifiques entendent par la compréhension de l'esprit humain et la compréhension de ses propensions dans les cas extrêmes, ses formes templates ou ses programmes développementaux, c'est-à-dire la compréhension de la nature humaine sous-jacente dans laquelle l'esprit est naturel plutôt que culturel. La réciprocité, par exemple, n'est pas seulement un système de récompense établi par des groupes humains, mais dérive, selon Hind, de la propension d'apprendre à se comporter prosocialement. La réciprocité, il dit, fait partie de la nature humaine. Si par nature humaine, nous nous référons aux aspects universels de l'esprit humain, cela doit alors aussi inclure le social dans le sens de Durkheim, de ce qui est internalisé autant de ce qui est hérité, même comme propension. Et ce qui est internalisé pourrait bien être responsable des conséquences de l'interaction sociale provenant de la communication linguistique. Cette dernière est de façon importante culturel. Il est vrai que nous pouvons avoir une propension pour la communication linguistique, mais la notion de propension, qu'on comprit par Boyer, se montre plutôt faible comme agent explicatif. Presque toutes les activités humaines doivent être évidemment en accord avec les propensions générales, mais celles-ci ont nécessairement une vaste base. La contention fondamentale de Hind est que la tendance sous-jacente de la religion, par exemple le comportement prosocial derrière la moralité, est un produit des forces darwiniennes, celles qui opèrent sur la reproduction des espèces par les gènes. C'est une forme de sélection très différente de celle du darwinisme social, utilisée par exemple par le sociologue anglais Stephen Runciman, où il défend un paradigme sélectionniste, mais c'est un sélectionniste social et pas biologique. L'attribution génétique des chimpanzés est de 98% identique à celle des humains. Nous ne pouvons attribuer la différence entre la façon de vivre des deux espèces à ce 1,6% de différence. Ce qui est important, bien sûr, c'est que l'homme ait développé un mode de communication, un emmagasinage de la mémoire, dont de transmission culturelle et d'accumulation culturelle. Leur importante efficacité permettent d'énormes différences dans la connaissance et dans l'esprit qui leur permettent de se développer, de conserver et de transmettre les programmes. Le langage n'est peut-être pas créateur de la culture, de la fabrication des outils ou de la société. On peut retrouver tout cela dans une certaine mesure chez les primates. Mais cela a énormément accru l'étendue des possibilités des capacités mentales de l'homme. Ces capacités furent favorisées par l'invention de l'écriture qui changea l'esprit humain en le pourvoyant en plus de technologies de l'intellect. La nature humaine, dans son sens le plus strict, n'était peut-être pas transformée, mais l'esprit humain l'était. Cette extraordinaire domination du monde par l'homme, quantitative et qualitative, peut-être le résultat d'une force sélective, comme certains néo-darwinistes ont essayé de discuter, mais si c'est ainsi, ces forces sont largement sociales et culturelles, plutôt que génétiques et biologiques. Il y a deux façons de considérer les universalités de la religion et ses processus mentaux. On peut, par exemple, les attribuer à des qualités internes de l'esprit ou bien considérer les similitudes mentales comme étant issues de l'expérience. Du premier exemple dérive l'assomption des sciences cognitives que voit, parmi de nombreux scénarios possibles, les traits universels comme le résultat d'une sélection évolutionnaire naturelle. L'alternative est l'assomption que j'utilise quand je parle de l'Odegaard, observant les similitudes comme étant dérivées des expériences parallèles des animaux, des humains utilisant leur langage. Elles sont un produit de l'esprit humain plutôt que la nature humaine. Merci.
Attribuez-vous une particularité ou une spécificité précise, voire une précocité même, dans l'évolution de l'esprit dans la civilisation égyptienne, par exemple? D'une part, l'évolution de l'esprit est-elle liée précisément à la modernité, ou n'existe-t-il peut-être quelque part dans le monde des peuplades ou des minorités qui ont une particularité peut-être plus évoluée que celle de l'Occident?
Je ne crois pas que c'est plus évolué que celle de l'Occident, mais c'est peut-être au même niveau des civilisations de l'écriture, comme les Mésopotamie et comme la Chine. Il y a certainement des particularités spécifiques en Égypte, mais il y a aussi beaucoup de similitudes avec la Chine et avec la Mésopotamie. Quant à moi, je crois que ils ont développé les doctrines au sujet de la mort avec l'aide de l'écriture, comme on avait fait en Mésopotamie et en Chine. C'est-à-dire que la dualité existe chez les cultures orales, mais c'est pas aussi développé parce que l'écriture c'est une façon de mettre ses pensées devant soi et d'élaborer des doctrines et des dogmes comme ça. Et je crois que c'est ce qu'ils ont fait en Égypte. Mais je suis pas un expert dans des choses égyptiennes.
Vous avez insisté assez longuement sur l'extrémisme du dualisme notamment le manichéisme. Ne pensez-vous pas que la nature de l'esprit est transcendante comme on peut le sentir derrière les religions et que ce dualisme extrémiste est dû à une volonté de l'expliquer avec la raison rationnelle et avec le langage? Donc à le réduire à cette dimension-là alors qu'il est incompréhensible, il est transcendant à cette dimension.
Je ne crois pas que c'est transcendant à cette dimension. C'est une façon de voir, de discuter cette dimension. Mais à mon avis, c'est pas une transcendance. Je crois que c'est plutôt, comme j'avais dit, une façon de voir la dichotomie. Dans une manière plus radicale, avec le monde comme le mal, et le spirituel, l'esprit comme le bien. Et bien sûr, ça pose beaucoup de problèmes pour la continuité de l'homme et tout ça. Il y avait eu des contradictions radicales aussi. Dans tous les efforts, dans toutes les doctrines radicales des manichéennes et des bogomiles, et aussi des cathares, je crois. Je ne crois pas que c'est une transcendance, non. C'est une façon d'approcher, c'est une façon de pencher le problème de l'esprit et de l'esprit et le corps et le monde.
Oui, c'est dans la suite de la question précédente. Est-ce que, au contraire, la dichotomie que vous avez évoquée ne serait pas pour l'esprit humain une manière de se protéger, d'apprivoiser la complexité du monde?
Oui, c'est vrai, c'est peut-être une façon d'expliquer la complexité du monde. Comme la dichotomie entre l'âme et le corps dans la société orale comme le regard du nord du Ghana. Je crois que toutes ces dichotomies sont des façons d'expliquer le monde d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est une façon d'expliquer le monde, bien sûr, mais c'est une façon d'expliquer le monde en rejetant le monde. Oui, c'est une façon d'expliquer la présence du mal dans le monde, oui.
Excusez-moi, j'ai eu beaucoup de mal à vous comprendre, de sorte que j'espère que ma question sera pertinente. Est-ce que cette dichotomie dont vous avez parlé n'a pas diminué avec la modernité? Est-ce qu'on perçoit mieux maintenant les liens du corps et de l'âme et de l'esprit? Par exemple, au niveau de l'enseignement des sourds-muets, on peut pas enseigner l'esprit à un enfant s'il n'y a pas des liens avec son corps.
Oui, c'est vrai que ça a commencé à diminuer, surtout chez les psychologues, mais il y a toujours un résidu, même si on lit les travaux de neurologistes et des philosophes, il y a presque toujours un résidu du problème qui reste sur le conscient. Et aussi que reste sur le conscient, et aussi que reste sur les réponses que le corps fait automatiquement, et celles qu'elle fait volontairement. C'est un problème qui relève chez les philosophes, chez quelques philosophes. Il y en a qui rejettent la dichotomie comme Gilbert Ryle à Oxford, mais il y a beaucoup d'autres qui voient des problèmes même maintenant dans le fonctionnement de l'être humain, et qui ont recours à une espèce de dichotomie. Et il faut dire que dans nos conversations normales, on utilise toujours la conception de la dichotomie entre le corps et la mentalité, très souvent.
Monsieur Goudy, je suis médecin, je vous ai écouté avec beaucoup de plaisir sur un sujet sensible et vraiment très difficile. Depuis quelques années, en médecine et en philosophie, nous avons une masse de publications sur, disons-le en anglais, le brain-mind problem. Un des livres qui m'a le plus impressionné depuis un quart de siècle, c'est le livre de Sir Karl Popper, le logicien anglais, et de John Eccles, prix Nobel de neurophysiologie, intitulé « The Self and Its Brain ». D'un point de vue médical, logique et philosophique, ces deux auteurs traitent tous les problèmes que vous avez évoqués. Ce livre n'est pas très connu en France, il n'a pas été traduit. Je voudrais vous demander votre opinion sur cet ouvrage qui, pour moi, est absolument fondamental. Merci.
Je ne savais pas que ça n'ait pas été traduit en français. Je crois que on était très... On a découvert les qualités de Karl Popper assez en retard en France. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et oui, je trouve que cette livre est très bien. Mais il y a des autres philosophes et il y a des autres chirurgiens qui ont pris de, comme Wilder Penrose et des autres philosophes comme le vicomte Samuel qui ont pris d'autres positions et qui ont trouvé une utilité dans la dichotomie même aujourd'hui. Il y a eu un petit livre écrit, je crois, au même moment que celui dont vous avez parlé, qui s'appelle The Physical Basis of the Mind, qui était une série de transmissions de radio dans les années 50 ou 60. Et il y avait des prises de position entre les philosophes et les médecins. Et ça m'a beaucoup surpris que même les médecins ont eu recours à la dichotomie. Pour expliquer quelques aspects de la mind-body, de la mind-body problem. Mais je crois que Karl Popper était quant à moi, c'est l'homme qui a fait le mieux dans cette direction. Moi, j'avais concentré pas sur la position contemporaine, mais sur la position historique, parce que je vois le problème au point de vue de l'histoire culturelle, au point de vue de l'histoire universelle. Et je crois que même aujourd'hui, c'est difficile de d'abandonner la dichotomie. Même s'il a été beaucoup modifié par des gens comme Popper et A.J. Ayer et les autres. Mais je crois que ça reste... je crois qu'il y a des problèmes qui ne sont pas tout à fait résolus.
Vous nous avez longuement démontré l'influence des technologies intellectuelles sur l'évolution de l'esprit humain, en particulier le langage et l'écriture. Je voudrais savoir si vous pensez que les technologies Internet et la révolution numérique, si vous les considérez comme une nouvelle technologie intellectuelle, dans la mesure où elles induisent de nouveaux artefacts cognitifs, et dans quelle mesure, selon vous, ces nouvelles technologies peuvent-elles influencer l'évolution de l'esprit humain?
Oui, je suis bien sûr dans un... J'accepte tout à fait que l'évolution a continué à changer notre esprit humain. Pas la nature humaine, mais l'esprit humain. Par exemple, j'avais parlé de la table de la table de computation, la table d'arithmétique. Maintenant, on sait, ça apprend les enfants, les tables électriques, on les donnait. Hein. Une calculatrice à main, et ils font des calculations là-dessus. Alors, la capacité de calculer a certains changé pour certains enfants, pour certains adultes. Ils calculaient de façon tout à fait différente, et ça a changé le mode de. Ça tient en question de la mode de communication d'une façon électronique. Et je suis convaincu que c'était le même avec l'email et l'Internet. Je vois en anglais, je n'ai pas fait des expériences sérieuses, mais je vois en anglais que les. Le syntaxe de mes étudiants a changé avec ce genre de communication. C'est une. Il écrit plutôt comme il parle maintenant, parce que c'est plus facile à manipuler le système. Mais oui, nous ne sommes pas fixés à un certain moment en temps. Les nouveaux moyens de communication. Change en doute le fonctionnement de l'esprit humain, bien sûr.
Pensez pas, vous, monsieur l'auteur, que la dichotomie corps-esprit, elle n'est pas déjà dépassée, et il y a assez de savants qui ont critiqué ce concept, qui n'apporte pas grand-chose à notre évolution psychologique, du point de vue cognitif, et surtout, ne vous confondez peut-être pas la dichotomie et la dissociation qui est un symptôme schizophrénique.
Quand je parle d'une dichotomie entre l'esprit et le corps, je crois qu'il y a toujours, même dans les sociétés soi-disant primitive dont j'avais parlé. Il y a toujours une façon de voir l'unicité de l'humain, de l'être humain. C'est une séparation des éléments de son totalité, comme dans la dictée romain que j'avais cité, latin que j'avais cité, mens sano, incorpore sano. La question de l'interaction de ces éléments a toujours été très importante. C'est plus important maintenant que jamais, je crois, et surtout dans la psychiatrie et la psychanalyse. Mais quand même, vous avez parlé de l'unicité, mais il y a toujours, dedans l'unicité, il y a une division. Il y a une division entre l'esprit et le corps, dont vous avez parlé, et même le système de médecins somatiques ou de. Je pense toujours qu'il y a une interaction entre les deux. Il y a toujours une interaction entre les deux. Mais c'est ce que je voulais dire, c'est même maintenant, les gens pensent souvent. Et c'est très difficile d'éviter. Les gens pensent avec les catégories, avec une dichotomie. Et je ne crois pas que l'islam l'évite toujours parce que Il y a toujours un parti de l'humain qui reste à terre et il y a un autre qui rejoint Allah dans le ciel. Il y a une partie de nous qui continue en islam, je crois, comme il y a une partie qui reste par terre, sur la terre. Et je ne crois pas que la dichotomie est tout est a tout à fait évanoui pour la plupart du monde. C'est vrai qu'il y a des esprits, des gens qui l'ont rejeté. Il y avait eu un genre de matérialisme, même chez les hindous en Inde, et même dans les autres civilisations, mais ça a été toujours une pensée minoritaire, je crois.
Je voulais vous demander, d'une part, si le mot esprit n'était pas à bannir. Parce que, en fait, si je prends un livre récent de Changeux et Ricoeur, Changeux est un neuroscientifique et Ricoeur, un philosophe, comme vous le savez, eh bien, l'un pense que esprit, surtout en français, veut dire trois choses différentes. L'autre récuse le troisième sens. Et je crois que le mot esprit contribue à compliquer les choses et à obscurcir les choses. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une dichotomie qui n'est pas récusable par personne? C'est la dichotomie entre le subjectif et l'objectif. Si on prend par exemple une douleur, eh bien la douleur est à la fois objective, puisqu'il y a des manifestations de la douleur, que les médecins essayent de quantifier la douleur, par quel procédé, et en particulier, seule la personne qui ressent la douleur, c'est-à-dire le côté subjectif de la douleur, correspond en gros à l'esprit. Et tout ce qui peut influencer sur cette douleur, par des injections, par différentes manœuvres matérialistes, entre guillemets, ça c'est le côté objectif de l'esprit. De la douleur, pardon.
Oui, s'il y avait un alternatif, je voudrais bien l'utiliser au point de vue de l'histoire contemporaine. Mais je ne crois pas que la dichotomie subjectif, objectif est mieux, est beaucoup mieux que l'autre. Et bien sûr, l'autre, nous héritons l'autre. C'est une partie de notre passé. C'est une partie de notre littérature et de notre pensée. Et nous sommes les héritiers de cette dichotomie. Il faut le comprendre. Il faut comprendre ce que les gens ont pensé et ce que les gens comme j'avais parlé, ce que les historiens de la mentalité, enfin de l'esprit si vous voulez, les historiens de la mentalité, ce qu'ils font. Il pense qu'il fait quelque chose de différent des autres historiens, des historiens sociaux, par exemple. Je ne suis pas tout à fait convaincu, mais c'est ce qu'il pense. Et il faut comprendre ce qu'il veut dire à nous sur les mentalités de France dans le 18e siècle ou dans le 19e siècle. Et moi, je ne suis pas avocat de cette dichotomie, mais c'est une dichotomie que j'avais essayé d'expliquer pourquoi ça a été dans le passé une dichotomie assez générale, quasi universelle, qu'on trouve, à mon avis, dans presque toutes les civilisations, dans presque toutes les sociétés, sinon dans toutes les sociétés.
Jagoudi, je vous remercie.